Bonjour à tous, bonjour à toutes. La semaine dernière, au cours de la présidence de notre sœur, nous avons lu un merveilleux passage dans l'Épître aux Corinthiens et j'aimerais le relire pour introduire. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour use de longanimité, il est plein de bonté, l'amour, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne pille jamais. Que devons-nous supporter ? Et que ne devons-nous pas supporter? Nous avons la nécessité de haïr le mal et de s'en séparer, que ce soit d'un point de vue individuel, mais également collectif dans notre assemblée. Alors que faut-il supporter? En 1 Corinthiens 13, verset 7, l'apôtre Paul nous dit que l'amour supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Mais l'absolu de cette déclaration ne doit pas nous faire mettre de côté l'enseignement d'autres passages. Voyons par exemple les lettres écrites par le Seigneur aux sept assemblées d'Asie mineure à l'époque de l'apôtre Jean. Outre leur portée immédiate, ces lettres évoquent le développement historique d'une église responsable. En Apocalypse 2, verset 2, Éphèse reçoit cette approbation du Seigneur. Tu ne peux supporter les méchants. C'était la situation du début. En Apocalypse 2, versets 14 et 15, le Seigneur doit reprocher à l'assemblée de Pergame : tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam et tu en as aussi qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes pareillement. Des gens enseignaient des mauvaises doctrines dans l'assemblée et l'assemblée le supportait. Enfin, en Apocalypse 2 et verset 20, le Seigneur exprime un reproche encore plus sévère à l'église de Thyatire. J'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel qui se dit prophétesse, et elle enseigne et elle égare mes esclaves. Supporter ce qui ne devait pas l'être a conduit l'église à la ruine. On n'a pas retenu ferme l'enseignement de la parole de Dieu. On a accepté des adjonctions, des soustractions, des déformations. La pensée de Dieu a été largement mise de côté au profit de la pensée de l'homme. Et le résultat est bien visible aujourd'hui. C'est la division, la confusion générale dans ce qui porte encore aujourd'hui le nom d'Église. En Ésaïe 5, verset 20, les paroles que le prophète devait adresser à Israël ont toute leur valeur dans notre époque actuelle. Et elles doivent nous interpeller. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Malheur à ceux qui appellent bien. Pardon. Malheur à ceux qui mettent des ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres. Malheur à ceux qui mettent l'amer pour le doux et le doux pour l'amer. Le monde actuel, même lorsqu'il porte une étiquette chrétienne, prône la tolérance. Il ne s'insurge guère que contre l'intolérance. Chacun a le droit de penser de faire ce qu'il veut, pourvu qu'il ne dérange pas son prochain. Les normes divines, les notions de bien et de mal enseignées dans les Écritures sont de plus en plus oubliées, voire mises de côté. L'Assemblée d'Éphèse était approuvée de ne pouvoir supporter les méchants et de haïr les œuvres des Nicolaïtes, que le Seigneur lui-même haïssait également. Mais remarquons que cet attachement à la vérité, tout essentiel qu'il soit, n'est pas encore la preuve d'un bon état spirituel, parce que le Seigneur doit ajouter en Apocalypse 2, verset 4, « Mais j'ai contre toi que tu as oublié, abandonné ton premier amour. » Voilà où se trouve la source du déclin. Nous devons nous supporter les uns les autres. Tout notre désir doit donc être de garder la parole du Seigneur dans l'humilité, dans la fidélité, comme cette assemblée d'Asie à laquelle Jésus peut rendre témoignage en Apocalypse 3, verset 8. Tu as gardé ma parole. L'attachement à la parole de Dieu ne nous conduit pas seulement à ne pas supporter ce qui lui est contraire. Si nous ne sommes attentifs qu'à cela, alors nous devenons durs et intransigeants. Et nous abandonnons peut-être, sans nous en rendre compte, un autre aspect de la vérité, la manifestation de l'amour, de la patience et de la grâce de Dieu. N'oublions pas la faiblesse qui caractérise la nature humaine et qui demeure présente dans chaque croyant. N'oubliez pas que, comme nous le rappelle Jacques, chapitre 3, verset 2, nous faillissons tous à plusieurs égards. Et surtout, n'oublions pas non plus l'immense grâce que Dieu nous a faite en pardonnant nos péchés. Cette grâce dont nous avons encore besoin chaque jour de notre vie. La vie collective des croyants, que ce soit en famille ou en assemblée, n'apporte pas seulement les joies de l'affection de la communion fraternelle. En raison de nos faiblesses personnelles et de nos manquements, petits ou grands, elle implique des difficultés que la chair tend vite à transformer en animosité et en querelle. Et la parole de Dieu nous prévient à cet égard. Le précieux passage de Matthieu 18 et verset 20 dans lequel le Seigneur donne la certitude de sa présence au milieu des deux ou trois réunis en son nom est immédiatement suivi, et c'est frappant, par une question de Pierre. Combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 490 fois. La parabole qui suit illustre également notre comportement naturel. L'homme auquel une immense dette a été remise exige durement de son compagnon la toute petite dette qu'il a envers lui. Et le Seigneur conclut en plaçant solennellement devant nous le devoir de pardonner de tout notre cœur, chacun à son frère. Matthieu 18, verset 35. Supporter et pardonner vont ensemble. En Éphésiens 4, du verset 1 à 3, l'apôtre Paul nous exhorte à marcher d'une manière digne de l'appel dont nous avons été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, une longue patience, en nous supportant les autres dans l'amour et en nous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La réalisation de l'unité pratique dans la vie d'assemblée n'est possible que si nous nous supportons les uns les autres, mais également si nous savons nous pardonner les uns aux autres. À la fin du chapitre 4, verset 32, il dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, en vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. » Et nous trouvons le même enseignement dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. « Supportez-vous l'un l'autre et pardonnez-vous les uns aux autres. Si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. » Lorsqu'il s'agit des droits de Dieu, de sa sainteté, du maintien de la vérité divine, nous n'avons pas à être indifférents au mal. Le supporter serait une infidélité envers Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de nos droits, lorsque nous pensons être victimes d'un mauvais comportement ou d'une injustice de la part d'un frère ou d'une sœur, nous avons à pardonner, à supporter. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans la première épître, chapitre 6 et verset 7, « Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt des injustices ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt faire du tort ?» Pierre, en 1 Pierre, chapitre 2, verset 19, nous encourage en disant « C'est une chose digne de louange si quelqu'un, par conscience envers Dieu, supporte des afflictions. » en souffrant injustement. Dans la pratique, il est vrai que ces exhortations ne sont pas faciles à réaliser, surtout à cause de nos cœurs orgueilleux. Nous ouvrons facilement les yeux sur les manquements de nos frères et sœurs, mais nous les fermons sur les nôtres. Parfois même, nous justifions notre dureté en mettant en avant le maintien des droits de Dieu. Supporter tout, donc, dans le passage d'1 Corinthiens 13, verset 7, signifie donc clairement supporter sans limite dans le cadre de ce qui doit l'être. Mais cela ne doit jamais nous amener, nous conduire à tolérer ce que Dieu condamne. Quelques exemples. Citons d'abord l'exemple des Corinthiens. D'une part, ils manquaient à se supporter mutuellement, et d'autre part, ils avaient si peu de discernement spirituel qu'ils auraient bien été capables de supporter qu'on leur annonce un évangile différent, ou même un autre Jésus que celui que Paul avait prêché. 2 Corinthiens 11, verset 4. À plusieurs occasions, l'apôtre décrit les souffrances qu'impliquait pour lui le service qu'il avait reçu du Seigneur. Et il dit à ce sujet, « Nous prenons de la peine, travaillant de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous le supportons. Calomniés, nous supplions. » Et en Corinthiens 9, verset 12, « Nous supportons tout, afin de ne mettre aucun obstacle à l'évangile du Christ. » Et il dit à son enfant Timothée, dans 2 Timothée 3, 10, « Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience. » S'il appelle à garder avec fermeté ce qui lui avait été confié, à se détourner résolument de ce qui n'avait que la forme de la piété, il exhorte pourtant à être doux envers tous, propre à enseigner, ayant du support, et en enseignant avec douceur les opposants à la parole de Dieu. De Timothée 2, 4 et 5. Et enfin, considérons l'exemple suprême de Dieu. Romains 9, 22 nous dit qu'il a supporté avec une grande patience des vases de colère tout préparés pour la destruction. Il parle de nous, là. Et dans ses voix envers Israël, avec quelle patience a-t-il supporté son peuple infidèle ? Cependant, l'alliance de la piété extérieure, avec une marche dans le mal, ont amené la patience de Dieu à son terme. Dieu a fait dire à son peuple, par la bouche d'Ésaïe le prophète, en Ésaïe 1, versets 13 et 14, « Ne continuez pas d'apporter de vaines offrandes. L'encens m'est une abomination. La nouvelle lune et le sabbat, la convocation des assemblées, je ne puis supporter l'iniquité et la fête solennelle. Vos nouvelles lunes et vos assemblées, mon âme les hait. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. » Comme Dieu, nous devons haïr le mal. Nous devons haïr ce que Dieu est. Dieu s'est révélé à nous comme le Dieu d'amour. Non seulement il aime comme de bien-aimés enfants ceux qui sont nés de lui et qui possèdent sa vie, mais il nous a aimés alors que nous étions encore loin de lui. Romains 5, 8 nous dit « Dieu constate son amour à lui envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et on le rappelle dimanche après dimanche. Et pourtant, ce Dieu dont la nature est amour hait le mal sous toutes ses formes. De nombreux passages des Écritures nous le montrent. Je vais citer qu'un seul passage, Proverbe 6, verset 16. Non seulement Dieu hait, mais il a également en abomination les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui machine des projets d'iniquité, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème des querelles entre frères. Parce que nous possédons sa nature, puisque nous sommes nés de lui, Dieu attend de nous que nous ayons sa pensée et son estimation sur toute chose. Il travaille à cela dans nos cœurs par sa parole qui nous instruit et par son esprit qui forme nos pensées. Par une multitude d'exemples concrets de l'Ancien et du Nouveau Testament, Dieu nous révèle ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. et nous enseigne quelle est son appréciation des choses. Et il dit en Amos 5, verset 15, « Haïssez le mal et aimez le bien. » Dieu ne veut pas que nous soyons indifférents au mal. Le livre des Proverbes, qui nous enseigne les bases de la sagesse et de la connaissance selon Dieu, nous dit expressément, chapitre 8, verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. » Notre croissance spirituelle de nous conduire à devenir des hommes faits, et qui, par le fait de l'habitude, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Hébreux 5, verset 14. Ayons devant nous l'exemple suprême du Christ, au sujet duquel le psaume 45, puis l'épître aux Hébreux, rend ce beau témoignage. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Alors nous devons avoir une position équivoque. Prenons l'exemple de Josaphat, roi de Juda. L'Écriture nous décrit la piété de cet homme, sa fidélité, son attachement à la parole de Dieu et son zèle à servir Dieu en 2 Chroniques 17, des versets 1 à 9. Vous pourrez le relire chez vous. Mais le témoignage de Josaphat est entaché par des liaisons avec des hommes qui ont rejeté Dieu. Josaphat marche quant à lui dans les commandements de Dieu et il encourage son peuple. Il se démarque dans son comportement de ce qui se faisait dans le royaume des 10 tribus, sous la conduite du roi Achab et de la femme Jézabel. Mais cela n'en empêche pas d'unir son fils par mariage avec une fille d'un couple impie. Cette alliance entraînera une série d'associations mauvaises. D'abord, un festin en commun, une situation dans laquelle on aurait du mal à dire non. Puis une guerre menée en commun avec Achab, dans laquelle Josaphat va se retrouver à un doigt de la mort. Mais l'Éternel use de grâce, il use de miséricorde en son serviteur, et il crie à lui. Rentré en paix dans sa maison, Josaphat reçoit la visite d'un prophète qui lui apporte un message de la part de l'Éternel. Aides-tu le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel ? Chapitre 19 et verset 2. La collaboration de Josaphat avec ce méchant, qui pourtant était roi sur une partie du peuple de Dieu, cela était un témoignage qu'il fermait les yeux sur le mal. C'était une grave infidélité envers Dieu. Il appelait sur lui une sévère discipline. Mais Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce qu'il y a eu de bien dans la vie de Josaphat. Et il le mentionne en même temps qu'il lui reproche son association. Le récit biblique nous conduit à penser que Josaphat s'est humilié. Un jour d'épreuve pour lui. Il nous le montre dans une foi, dans une confiance en Dieu remarquable. Hélas, Josaphat retombera dans ce travers des associations malheureuses avec des hommes qui agissent méchamment. Vous pourrez relire 2 Chroniques 20, verset 35, et 1er et 2e livre des Rois également, chapitre 22. Alors nous devons nous séparer du mal. Jérémie 15, verset 19 nous dit « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » La haine du mal, dont nous venons de dire quelques mots, constitue la base de la séparation du mal, sur laquelle nous allons nous arrêter un petit peu maintenant. Un enseignement tiré de l'histoire d'Israël. L'Éternel avait mis à part pour lui le peuple d'Israël afin qu'il lui appartienne. Héritier des promesses divines faites à Abraham, ce peuple était le seul à posséder la révélation de Dieu, ce qui lui avait été communiqué par Moïse et par les prophètes. Entouré de peuples idolâtres et corrompus, Israël aurait dû s'en tenir séparé, marcher dans le chemin où il pouvait glorifier Dieu et jouir de ses bénédictions. Mais nous savons malheureusement qu'Israël n'a pas répondu à ce que Dieu attendait de lui. Soit il n'a pas réalisé la séparation avec les peuples qui l'entouraient et il s'est mêlé avec eux, puis a adopté leurs coutumes et leurs idoles. soit il a rigoureusement maintenu une séparation extérieure. Mais alors le peuple s'est glorifié de sa place privilégiée, en gardant les formes du judaïsme, tout en ayant un cœur éloigné de Dieu. Son état est décrit au temps d'Ésaïe comme au temps de Jésus par les mots de Matthieu 15, verset 8. Ce peuple, m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Dans l'époque chrétienne que nous vivons, les croyants ont été retirés du présent siècle mauvais. Galates 1, verset 4. Et en ce qui concerne le rappel, ils sont séparés du monde. Le Seigneur nous dit en Jean 17, verset 14 et 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Mais il ne faut pas se leurrer. Nous courons les mêmes dangers qu'Israël. Soit de nous conformer au monde qui nous entoure, soit de nous contenter d'une séparation extérieure qui laisse subsister le mal et le sommeil spirituel dans nos cœurs. Une religion faite de formes, d'habitudes, conduit à perdre tout discernement spirituel, à confondre ce qui est important avec ce qui ne l'est pas, et avoir une mesure différente pour se juger soi-même et juger les autres. Le tableau que le Seigneur trace des scribes et des pharisiens dans Matthieu 23 est impressionnant à cet égard. Relisez Matthieu 23. Relisez bien ce que Jésus dit des scribes et des pharisiens. Donc, je ne vais pas lire le chapitre en entier, on prendrait trop de temps, mais lisez-le. Nous devons nous séparer personnellement du mal. 2 Corinthiens 7, verset 1. Purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, en achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Nous sommes dans un monde caractérisé par les souillures de toutes sortes. De plus, nos cœurs produisent sans réserve ce qui souille l'homme. Tenons-nous séparés de tout ce mal et confessons sans délai nos manquements à Dieu. Cultivons ainsi une vraie et véritable communion avec lui. L'apôtre Paul nous avertit solennellement, 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. » Il évoque par là les associations entre croyants et incrédules en vue d'une marche en commun ou d'une collaboration dans ce monde. On peut citer l'exemple du mariage ou d'une association professionnelle, mais l'enseignement a une portée générale. Un tel lien est insensé car, comme il pourra dire au verset 14 et 15, quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord de Christ avec Béliard? Quelle part a le croyant avec l'incrédule? Il conduit le croyant à adopter les façons de faire et de penser du monde et à renier pratiquement son appel céleste et à déshonorer Dieu. Souvenons-nous que nous sommes appelés à être les témoins de Christ et à faire briller sa lumière ici-bas. Cela ne peut avoir lieu sans une véritable séparation du monde, ce monde qui a rejeté le Christ. N'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt, reprenez-les aussi. Éphésiens 5, verset 11. Notre séparation n'est pas seulement une chose négative, une absence de liaison. Elle a un caractère positif, celui d'une lumière qui brille dans les ténèbres. Toutes choses étant reprises par la lumière sont manifestées, car ce qui manifeste tout, c'est la lumière. En nous conduisant comme des enfants de Dieu, irréprochables, au milieu d'une génération tordue et perverse, nous pouvons reluire comme des luminaires dans le monde. Philippiens 2, verset 15. Et ce n'est qu'en étant moralement séparés du monde que nous pouvons lui être utiles, par un témoignage clair rendu à Christ. Mais nous devons également nous séparer de manière collective. Reprenons l'exemple de l'église de Corinthe. Cette assemblée, au moment où l'apôtre Paul lui a écrit sa première épître, était en mauvais état. Chapitre 5 de la première épître aux Corinthiens nous apprend qu'un mal moral grave était supporté dans cette assemblée. Les croyants n'ayant pas réalisé la nécessité d'ôter le méchant du milieu d'eux. En fait, s'ils manquaient de discernement spirituel pour cela, C'était à cause de leur bas état spirituel et de l'orgueil qui les remplissait. L'apôtre blâme cette assemblée sévèrement et les exhorte à s'humilier, à ôter du milieu d'eux celui qui avait commis cette honteuse action. De façon plus générale, il les exhorte à ôter le vieux levain, c'est-à-dire le mal, le méchant, celui qui est caractérisé par le mal. Nous avons ici une responsabilité de l'Assemblée. L'Assemblée doit juger ceux qui sont de dedans, en laissant à Dieu le soin de juger ceux qui sont de dehors. 1 Corinthiens 5, versets 12 et 13. Le principe « un peu de levain fait lever toute la pâte ». Ce principe est répété en Galates 5, verset 9, à l'occasion également d'un mal doctrinal. Il met en évidence la solidarité des croyants qui constituent l'Assemblée. Si nous sommes indifférents au mal, nous devenons participants de celui-ci. Il est donc indispensable de nous humilier, que nous jugions le mal et que nous le retirons du milieu de nous. Ôtez le vieux levain afin que vous soyez nouvelle pâte comme vous êtes sans levain. La seconde moitié de ce chapitre met en évidence un point qui concerne notre responsabilité individuelle. Les nécessités de notre vie sur la terre impliquent certaines relations avec des gens qui sont caractérisés par le péché. Quoique ces contacts doivent être marqués par une grande retenue. Mais pour que la discipline exercée sur une personne exclue de l'assemblée porte ses fruits et l'amène à sa restauration, les relations entre les croyants vis-à-vis de lui doivent être plus distantes qu'avec les gens du monde. C'est la parole du Seigneur. Versets 9 et 11. Les Corinthiens ont obéi à la parole. Ils ont écouté l'apôtre. Ils se sont humiliés. Dans la seconde épître, Paul reparle de ce cas, chapitre 2, versets 5 à 11. Et fort heureusement, la discipline de l'assemblée avait été une punition ou une répréhension infligée par le grand nombre. Elle avait produit la tristesse et la repentance. Et alors on pouvait envisager la restauration de celui qui avait été exclu. Nous devons nous retirer de tout ce qui n'est pas selon Dieu. La seconde épître à Timothée, la dernière épître que l'apôtre Paul a écrite, à une époque où la condition pratique de l'Église était déjà dégradée, les instructions que nous y trouvons ont d'autant plus de valeur que nous, pardon, pour nous, que ce mal s'est encore aggravé au cours des siècles. Dans ce qui portait le nom d'assemblée, il y avait des enseignements vains et profanes, une impiété qui allait croissant, un mal qui allait ronger comme une gangrène. On s'écartait de la vérité. On enseignait des erreurs graves et on renversait la foi de quelques-uns. Chapitre 2, versets 16 à 18. La confusion était telle qu'il pouvait devenir impossible de discerner ce qui appartenait au Seigneur et ce qui n'avait qu'une apparence du christianisme. Mais dans un tel état de choses, la responsabilité du croyant demeure. Qu'il se retire de l'iniquité et de l'injustice, quiconque prononce le nom du Seigneur. C'est le principe que nous avons déjà rencontré plusieurs fois, sous diverses formes. La nécessité de se retirer, de se séparer du mal. Rester associé au mal est une façon de le cautionner et de s'en rendre solidaire. L'apôtre poursuit en comparant l'Église responsable à une grande maison, dans laquelle il y a toutes sortes de vases. Des vases à honneur, des autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. La fidélité individuelle est toujours possible, quelle que soit la situation. L'apôtre ajoute également, au verset 22, « Fuis les convoitises de la jeunesse, poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. » Fuir le mal en ce qui concerne notre propre conduite, poursuivre les vertus chrétiennes en donnant la première place à Dieu et à ce qui est juste à ses yeux. Discerner ce qui invoque le Seigneur d'un cœur pur et réaliser avec eux les bénédictions inaltérables attachées au rassemblement autour du Seigneur. Voilà ce qui est placé devant nous. Pour conclure, que le Seigneur nous donne des cœurs engagés pour lui, une vraie humilité. Puisse le Seigneur nous apprendre à juger nos propres voies devant lui, qu'il nous enseigne à nous supporter l'un l'autre, avec patience et avec amour. Que Dieu nous accorde des pensées, une attitude juste à l'égard de ce qui est bien et de ce qui est mal. Amen.